Voice of Indonesia.
Bonjour, bonsoir, chers auditrices et auditeurs. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français, diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, vendredi 12 avril 2019, nous allons présenter des programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos tels que l'histoire aujourd'hui, mode Indonésie, magazine culturel, l'Indonésie en couleur et une chanson indonésienne. Bon, chers amis, écoutons maintenant le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. 70 ans des relations diplomatiques entre l'Indonésie et les États-Unis. Selon le ministre des Entreprises d'État, le rajeunissement des palmiers détermine le développement du biodiesel. Le ministre de la Défense lance le premier sous-marin fabriqué par l'Indonésie. L'Indonésie discute de la réglementation en matière de douane avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'Indonésie a remporté 11,5 millions de dollars au salon automobile australien. Bhutan du Nord continue de produire du riz biologique en raison de nombreuses demandes. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et les États-Unis a été marqué par le lancement de timbres spéciaux au bureau du ministère des Affaires étrangères à Jakarta mercredi. Le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, M. A.M. Fahir, a déclaré que 70 ans des relations entre les deux pays était le moment pour l'interaction concrète dans tous les domaines.
70 tahun ini juga kita jadikan momentum untuk
70 ans de relations indonésiennes et américaines, c'est le moment pour réellement interagir de manière concrète avec tous les acteurs. Alors imaginez tous les aspects que j'ai mentionnés, à savoir la politique, la sécurité, l'économie, les relations entre le peuple, l'éducation, y compris le dialogue interreligieux. Les deux pays ont des programmes concrets. Nous avons vraiment besoin de plus de programmes afin que plus de personnes soient impliquées dans la collaboration. À la même occasion, l'ambassadeur américain Joseph Donovan a déclaré que l'Indonésie était un partenaire stratégique très important pour la coopération bilatérale entre l'Indonésie et l'Amérique. Selon lui, les relations diplomatiques entre les deux pays qui sont fondées sur les mêmes valeurs démocratiques et les mêmes intérêts afin de créer un bon avenir. L'ambassadeur a espéré que les élections en Indonésie se dérouleraient en toute sécurité et en paix. Le ministre des Entreprises d'État, Mme Rini Sumarno, a demandé que le programme de rajeunissement des plantations de palmiers à huile soit élargi dans le cadre de développement de programmes de biodiesel ou biocarburant de diesel provenant de la transformation de l'huile de palme. Madame Rini a déclaré récemment dans la région de Rokan Hulu à Riau que le programme de régénération de l'huile de palme espérait que la productivité de l'huile de palme, notamment de celle appartenant à la communauté, continuerait à augmenter en impliquant PT Pertamina. Selon elle, le ministère des Entreprises d'État était déterminé à encourager le programme de régénération de l'huile de palme appartenant aux producteurs de plasma ou aux producteurs de palmiers à huile ayant collaboré avec PT Perkebunan Nusantara 5 dans la province de Riau. Jusqu'en 2025, cible le rajeunissement de palmiers à huile des producteurs de plasma atteignent plus de 32 000 hectares. Le ministre de la Défense de la République d'Indonésie, M. Ria Mirza Triakudu, a lancé récemment le premier sous-marin indonésien nommé Alugoro à la jetée sous-marine pétée par Indonesia à Tanjung Perak, Surabaya, Java Est. Le chef de service d'information de la marine, le premier amiral de TNI, Mohamed Zainal, a déclaré que le sous-marin était le troisième ordre de force marine. La coopération entre l'entreprise publique PT PAL Indonesia et Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering de la Corée du Sud. Selon Mohamed Zainal, le nom Alugoro est tiré d'une histoire de marionnette qui est l'une des armes en forme de gada appartenant à Prabhu Baladeva, une figure de marionnette connue pour être juste, ferme et honnête. On souhaite que l'utilisation du nom Alugoro puisse inspirer la marine à exécuter ses devoirs et ses tâches. Ce sous-marin devrait également être une arme qui a une grande force destructive et n'ayant jamais perdu la guerre. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Alain Simarmata, fonctionnaire chargé de l'économie de l'ambassade d'Indonésie à Port Moresby, avec le personnel économique du consulat indonésien à Vanimo, Oldirin Lawalata, ont rencontré les responsables de douane et de la quarantaine de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour discuter des dispositions douanières et de quarantaine en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans une déclaration écrite, la réunion avait pour but de soutenir l'importation de produits indonésiens vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée. À cette réunion, les participations ont également discuté des activités de marché frontalier et des problèmes qui se posent sur le terrain, en soulignant le sens important du marché frontalier pour les habitants des deux pays vivant dans la région frontalière entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les deux parties ont également convenu que le traitement du marché frontalier devait être effectué conjointement. L'Indonésie a remporté une transaction potentielle de 11,5 millions de dollars américains lors de la participation à Australian Auto Aftermarket Expo 2019, qui est le plus grand salon annuel de l'industrie automobile en Australie. L'ambassadeur d'Indonésie à Canberra, Cristiarto Legowo, a déclaré jeudi dans un communiqué écrit que la participation de l'Indonésie à cette exposition devrait stimuler davantage l'augmentation des exportations d'automobiles indonésiens vers l'Australie. L'exposition a eu lieu du 4 au 6 avril 2017 à Melbourne Convention and Exhibition Center en Australie. Ces transactions potentielles ont été obtenues auprès de 4 sociétés automobiles indonésiennes affichées dans le pavillon indonésien, à savoir Pertamina Lubrikan, Gajah Tunggal, Rekadaya Multi Adiprima et Astra Autopark. Les agriculteurs de Bhoutan du Nord, l'une des principales régions de pembekaran à Muna dans le sud-est de Sulawesi, continuent d'encourager le développement du riz rousse biologique Waka Wondu en tant que produit de base supérieure. Monsieur Abu Hassan, le régent du Nord de Bhoutan à Kendari, a déclaré jeudi: actuellement, le nombre d'acheteurs, tant sur le marché régional, interrégional et même dans certains pays européens, voulait acheter ce riz en grande quantité. Il a révélé que l'un des acheteurs provenait du Danemark, qui était prêt à acheter du riz rouge biologique. Monsieur Abu Hassan a ajouté que le début de nombreux acheteurs étrangers, après que ce riz était promu à l'exposition organisée par l'Association de gouvernement de régence de toute l'Indonésie, suivie de 407 régences de l'Indonésie au début juillet 2018. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Voice of Indonesia. Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre « Le Soudan en période de transition ». Après la semaine dernière, la transition des dirigeants a eu lieu en Algérie, en Afrique du Nord. À présent, le même processus s'est déroulé en Afrique orientale jeudi le 11 avril 2019. Le président soudanais Omar al-Bashir doit céder son pouvoir à l'armée. Cette décision est faite après les manifestations organisées par les Soudanais depuis décembre dernier. Avec la passation de pouvoir, le régime d'Omar al-Bashir, au pouvoir depuis près de 3 décennies, a pris fin. Omar al-Bashir a régné après le renversement du gouvernement élu en juin 1989. Au cours de son règne, il y a eu une scission entre le Soudan du Nord, la majorité musulmane, et le Soudanais du Sud, chrétien. En 2003, al-Bashir a tenté de réprimer la rébellion et près de 30 000 personnes ont été tuées. En 2005, il a signé un accord de paix avec les rebelles du Sud-Soudan. 6 ans plus tard, le nouvel État du Sud-Soudan a proclamé son indépendance. En 2009, al-Bashir a été reconnu coupable de crimes de guerre par la Cour internationale de justice qui a délivré un mandat d'arrêt à al-Bashir. Uniquement, en 2010, il a été élu président même s'il était opposé par l'opposition. En 2015, il a toujours été élu président de la deuxième période. La joie est apparue par ceux qui espéraient la chute du gouvernement al-Bashir. Mais cela n'a pas été la fin de la lutte. Les groupes de protestation sous l'organisation de l'Association des professionnels soudanais, ASP, continuent de manifester pour encourager la formation d'un gouvernement civil. Après la prise de pouvoir, les autorités militaires ont fixé une urgence de 3 mois et congelé la constitution. Le monde espère maintenant que pendant la période de transition, la situation s'améliorera et que l'élection générale sera en mesure de déterminer le gouvernement civil. Le problème est de savoir si les forces armées peuvent créer une atmosphère favorable après la transition de pouvoir. Sinon, l'armée continuera à prendre le contrôle du gouvernement qui a finalement formé un nouveau régime militaire comme il y a 30 ans. La clé est que le peuple soudanais doit être patient et que l'armée du pays sait que l'avenir du Soudan est déterminé par le peuple soudanais. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir. Voice of Indonesia.
Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 12 avril. Le 12 avril 1912, la naissance de Hamengkubuwono IX. Gusti Raden Mas Dorojatun, ou Sri Sultan Hamengkubuwono IX, est né à Ngajok, Jakarta, Hadiningrat, le 12 avril 1912. Il était l'un des sultans qui avait présidé le sultanat de Yogyakarta de 1940 à 1988. Il était également le premier gouverneur de la région spéciale de Yogyakarta après l'indépendance indonésienne. Sri Sultan a été le deuxième vice-président de l'Indonésie entre 1973 et 1978. Il est également connu sous le nom de Bapak Pramuka Indonesia et a présidé le mouvement scout national. Le 12 avril 1945, Franklin Delano Roosevelt, le président des États-Unis, est décédé. Franklin Delano Roosevelt a été le 32e président des États-Unis et le seul président américain à avoir été élu à 4 reprises entre 1933 et 1945. Il est décédé à Warm Springs en Géorgie le 12 avril 1945 à l'âge de 63 ans. Franklin Delano Roosevelt est devenu l'un des leaders du 20e siècle et a terminé 3e de l'histoire de la présidence américaine. L'une des réalisations de Roosevelt était notoire pour son leadership aidant les États-Unis à se relever de la Grande Dépression. Le 12 avril 1961, Yuri Alexeyevich Gagarin est le premier homme à aller dans l'espace. Yuri Alexeyevich Gagarin est un cosmonaute soviétique. Le 12 avril 1961, Gagarin a été le premier humain à voler pendant 100 8 minutes dans l'espace avec un avion fusée Vostok 1. Il a reçu de nombreuses distinctions et médailles, notamment la médaille Héros de l'Union soviétique. Yuri Gagarin est devenu par la suite directeur adjoint de la formation au centre de formation des cosmonautes à l'extérieur de Moscou. En l'honneur de ses services, ce lieu d'entraînement a ensuite été nommé d'après lui. Yuri Gagarin a reçu divers prix et médailles du monde international, à l'exception de l'Union soviétique. Entre autres choses, une récompense du peuple indonésien en 1961, lorsque le président Sukarno s'est rendu à l'Union soviétique, il a reçu la médaille Mahaputra. Cher ami, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Waktuku genggam tangannya, serasa hati digoda. Ku coba tanya sendiri, apakah permaisuriku? Mungkinkah mata hatinya menyingkap tabir cintaku? Yakinkan hati kecil. Nafasku sejam mata kini bila pikir-pikir kata cinta itu kedua daunku pinku usai ku nyatakan tunggu jawabnya pujaanku surga jiwaku izinkan ku jadi kasihmu impianku angan cintaku biarkan ku mencintaimu. Waktu ku genggam tangannya, serasa hati digoda. Ku coba tanya sendiri, engkau ke permaisuriku. Tarik nafasku, kejam mata pilih, bila pikir-pikir kata cinta itu, kedua daun kupingku, usai ku nyatakan, tunggu jawabnya, pujaanku, surga jiwaku, izinkan ku, jadi kasihmu, impianku. Angan cintaku, biarkan ku mencintaimu. Terbalas bagai tertimpa dunia, rasa ini ingin mati saja. 1000 tahun kan ku nanti jawabnya. Pujaanku, surga jiwaku, izinkan ku jadi kasihmu. Izinkanku, angan cintaku, biarkan ku mencintaimu.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était une chanson intitulée Bonne Impératrice, chantée par Jamaica Café. Chers amis, soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Écoutons maintenant mon Indonésie.
Chers amis de l'antenne, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter mon Indonésie et pour le titre « L'Indonésie, meilleure destination touristique halal au monde en 2019 ». L'Indonésie est désignée meilleure destination touristique halal au monde selon la norme 2019 de l'indice de voyage mondial pour les voyages musulmans GMTI 2019. L'agence de notation Mastercard Crescent place l'Indonésie au premier rang selon la norme de GMTI avec un score de 78 dépassant les 130 destinations mondiales. Le président directeur général de Crescent Rating, Fazal Bahardin, cité dans l'émission officielle du ministère du Tourisme, mardi a déclaré que l'Indonésie était le seul pays le plus progressiste dans le développement de destinations touristiques halal. Le rapport de GMTI analyse sur la base de 4 critères d'évaluation stratégique, à savoir l'accès, la communication, l'environnement et le service. Ainsi, l'indice de voyage musulman Indonésie IMTI 2019 a également adopté les mêmes critères. L'Indonésie également menait de manière intensive les directives techniques et organisait des ateliers sur 10 destinations excellentes touristiques halal du pays. L'Indonésie est considérée comme un lieu convivial pour les touristes musulmans car elle offre la commodité des installations, notamment des lieux de culte et la cuisine halal, facile d'accès et considérée riche en destinations historiques et en patrimoine culturel islamique. Le ministre du Tourisme, Arif Yahya, a apprécié l'agence de notation mondiale Mastercard Crescent Global Muslim Travel Andis qui a attribué la meilleure note à l'Indonésie. Selon lui, cette réalisation prouve qu'il faut planifier pour atteindre la victoire. En outre, le ministre Arif Yahya a également exprimé l'espoir que l'Indonésie, qui figure en tête de liste des meilleures destinations touristiques halal au monde, attirera davantage de touristes étrangers en Indonésie. Le ministre cible 20 millions de touristes étrangers, dont 5 millions ou 25% sont des touristes du tourisme halal cette année. En outre, le ministre Arif Yahya a également déclaré qu'avec le succès remporté par l'Indonésie, qui aurait réussi à devenir la première destination touristique halal, l'Indonésie aurait la possibilité de devenir un acteur majeur du tourisme halal. Le tourisme halal peut représenter 25% de l'objectif global de croissance du tourisme qui est cette année fixé à 20 milliards de dollars. En outre, le ministre a ajouté que jusqu'à présent, 3 provinces ont été désignées comme destination halal. Ils sont Nusa Tenggara Ouest, Aceh et Sumatra Ouest. Les autres provinces susceptibles de devenir les prochaines destinations touristiques halal sont les provinces de Riau et de Java Occidental. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était une chanson intitulée « Tout me manque » chantée par Ismi Aziz. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter Magazine Culturel. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter Magazine Culturel. Et cette fois, vous allez écouter Grontol Jagung, une cuisine traditionnelle de Java Central. La ville de Solo, dans la province de Java Central, possède une destination touristique complète, à savoir le tourisme naturel, historique et culinaire. Une particularité du tourisme culinaire à Solo est son plat qui a maintenu la tradition depuis les temps anciens. Il existe une variété de plats traditionnels. Celui que vous devez goûter lors de la visite dans cette ville est Grontol Jagung. Grontol Jagung est un aliment indonésien traditionnel à base de maïs avec un mélange de noix de coco râpées. Ce plat traditionnel est assez simple. Le maïs est l'ingrédient principal de cette cuisine. Lorsqu'il est servi, le maïs qui est bouilli est saupoudré de noix de coco râpées et de sel. Pour ceux d'entre vous qui aiment le goût du sucré, vous pouvez également ajouter du sucre. En plus d'être délicieux, Grontol Jagung est également très nourrissant parce qu'il est fabriqué à partir de maïs qui arrive en glucide. Et jusqu'à présent, il est un plat préféré des habitants de Solo, Yogyakarta et ses environs. Cette cuisine simple est vendue sur le marché traditionnel de la ville de Solo, entre autres le marché de Pasar Gede Solo. Le prix est assez bon marché, environ 5000 rupiah par portion. Chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Hadirmu sementara
Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Pas plus belle » chantée par Jacqueline. Chers amis, soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Écoutons maintenant une rubrique « L'Indonésie en couleur », la rubrique qui fournit des informations sur les événements intéressants en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Servido Jodito Auditris Bonsoir, voici l'Indonésie en couleur et en pour titre Sumatra du Sud accueille la réunion internationale des accords sur l'environnement urbain. Soyez toujours avec nous sur www.voice.id. Sumatra du Sud serait des accords sur l'environnement urbain EAU ou zone respectueuse de l'environnement tenu à Palembang à la fin d'octobre 2019. Le personnel spécial du gouvernement chargé du changement climatique, Najib Asmani, a déclaré qu'il pensait que Sumatra du Sud organisait l'événement car l'espace est assez expérimenté dans l'organisation d'activités internationales. Par conséquent, Sumatra du Sud organiserait une activité sur le thème « Ville et quartier intelligent et durable ». Sagrita, OEA est une organisation internationale collaborative qui s'emploie à élaborer l'indice d'évaluation environnementale en milieu urbain et de résidence. Il y a 161 villes et résidences qui sont membres de cette organisation. En outre, l'organisation a mis en œuvre le programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, et l'appliqué dans les villes du monde entier. Le but de la mise en œuvre de cette réunion est d'augmenter globalement la sensibilisation du gouvernement et de la société sur la conservation de l'environnement vert. En outre, pour créer une ville verte à faible carbone en élargissant les réseaux mondiaux et en développant des projets respectueux de l'environnement. Najib Asman, personnel spécial du gouvernement de Sumatra du Sud pour les changements climatiques, a déclaré que Sumatra du Sud serait l'hôte de l'activité car cette région était considérée comme ayant réussi à mener plusieurs activités internationales. En outre, le sud de Sumatra est considéré comme une zone assez vaste avec une biodiversité abondante. De plus, la communauté mondiale discute actuellement des problèmes environnementaux et le sud de Sumatra est très préoccupé par ces problèmes. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À demain.
Dia citra segala nuansa. Sungguhlah hatinya limpahkan lukamu. Dia nafas bagi hidupku. Pintanya damai, rindunya teduh, damailah alam semesta. Jumlahlah birunya alam luka dirimu. Raihlah cintanya, tenangkan
Voice of Indonesia.
Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne. Et restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Nous continuons notre programme avec une chanson indonésienne.
Voice of Indonesia.
Merci d'être fidèles à notre antenne, La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Maintenant, nous allons vous présenter une chanson indonésienne. Et cette fois, vous allez écouter une chanson intitulée « Lire et lire ». Cette chanson japonaise est l'œuvre de l'un des Wali Songo, c'est Sunan Kalijaga. Il est le seul Wali Songo d'origine japonaise, Kalijaga, qui a propagé l'islam par divers arts japonais, tels que les marionnettes, les chants et d'autres arts populaires. Sunan Kalijaga insère toujours de profondes valeurs philosophiques dans chaque chanson qu'il écrit, y compris la chanson intitulée « Lire et lire ». Ce chanson raconte que les musulmans, nous devons en prendre conscience, puis nous sortir de l'adversité de la paresse et nous devons renforcer la foi établie par Dieu. Le soi humain est décrit comme une plante verte et commence à fleurir au début. La suite, ça dépend de chaque individu qui peut être paresseux et laisse la foi mourir, ou bien essaie de renforcer la foi pour obtenir le bonheur. Cette chanson a également été réenregistrée, réarrangée et chantée par plusieurs musiciens indonésiens. Bon, chers amis, écoutons maintenant une chanson intitulée « Lire et lire » chantée par Riz.
Oh, sorry.
Voice of Indonesia.
Chers auditrices et auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.